Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Gustave Eiffel, le géant de fer, c'est le titre d'une bande dessinée publiée avec Philippe Coupéry-Eiffel, président de l'association des amis de Gustave Eiffel et lui-même descendant du grand ingénieur. Je vous laisse deviner le sujet qu'a choisi aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est pas très difficile, effectivement. Nous allons parler d'Eiffel et pas seulement de sa tour, en compagnie de Michel Carmona, que connaissent bien nos auditeurs, et de Philippe Coupéry-Eiffel. C'est le legs extraordinaire de ce grand homme du 19e siècle que nous allons essayer de redécouvrir dans l'heure qui vient.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de David qui souhaite connaître l'histoire des premiers salons de coiffure.
Vous remarquerez l'étonnante variété des questions qui me sont posées dans le cadre de cette rubrique Retour aux origines. Pour le moment, je vous propose de revivre l'élévation dans le ciel de Paris du plus célèbre monument de France.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Elle est devenue le symbole de la France en général et de Paris en particulier, mais la Tour Eiffel, avant de s'imposer comme un des 10 monuments les plus célèbres de la planète, si j'en crois un sondage de l'année dernière, a d'abord été un projet fou, puis un chantier phénoménal. C'est cette aventure des débuts de la Tour qui m'intéresse plus que tout. Et tant mieux si, en revivant la naissance de la grande dame de fer, comme on l'a surnommée, nous tordons le cou à un certain nombre d'idées fausses. Tout le monde parle du chef-d'œuvre de Monsieur Eiffel et l'on a tendance à penser que la tour a été imaginée, conçue, dessinée par Gustave Eiffel. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, Gustave Eiffel a construit la tour. Il en est le père, incontestablement, mais il ne l'a pas inventée tout seul. L'idée appartient à deux inconnus qui ne le seront plus pour vous dans un instant. Tout commence en 1884. 1884, nous sommes sous la Troisième République triomphante, alors que Jules Ferry, le père de l'école républicaine, est président du Conseil. La France vénère Victor Hugo, il va mourir l'année suivante, au sommet de sa gloire. La France vient d'établir la liberté syndicale, elle vient de rétablir le droit au divorce, elle entend bien communiquer ses idéaux au monde entier à travers un empire colonial qui, à l'époque, est en pleine expansion. Or, il faut avoir cela à l'esprit. Au premier rang des idéaux républicains de l'époque, il y a le progrès technique. Au-delà même d'un idéal, on pourrait presque parler d'un moteur. C'est, si je puis dire, le carburant même de ce régime et de cette société de la France de la fin du 19e siècle. Et notamment, en plus du chemin de fer, évidemment, de l'industrie lourde, du commerce international, le chemin de fer étant un peu à l'origine de tout ça, et allant de pair avec eux, une nouvelle forme d'architecture qui s'appuie sur l'essor de la sidérurgie, l'architecture métallique. Pensez tout simplement aux gares de l'époque, dont certaines sont encore debout, de moins en moins nombreuses malheureusement. On a tendance à les remplacer par des choses moins agréables, me semble-t-il, depuis quelques années. Pensez aux grands magasins, aux halles, aux ponts, à toutes sortes d'ouvrages d'art. On a l'impression que rien n'est impossible au génie humain à l'époque. On jette à travers les vallées des viaducs absolument extraordinaires. Je ne vous apprends rien. L'un des grands spécialistes français de cette architecture métallique, pour pas dire le grand spécialiste, c'est un ingénieur de centrale, encore jeune relativement, à l'époque il a la cinquantaine. Il a installé ses ateliers à Levallois-Perret depuis une vingtaine d'années. C'est bien sûr Gustave Eiffel. À cette époque, il y a près d'un quart de siècle que les ateliers Eiffel de Levallois rivettent des poutrelles, fabriquent d'invraisemblables jeux de mécano à destination des rivières de France, d'Europe et du monde entier. Dès l'âge de 25 ans, nous allons le voir tout à l'heure, le jeune centralien était entré un petit peu par hasard chez un certain Charles Neveu, constructeur de machines à vapeur, outils, forges, chaudronneries, tôleries, matériel fixe et et roulant pour chemin de fer. Voilà l'intitulé de la société Neveu. Et c'est pour le compte de cet homme orchestre qu'il avait eu l'idée de lancer son incroyable passerelle ferroviaire sur la Garonne, dont nous aurons peut-être l'occasion de dire un mot tout à l'heure. Une passerelle en métal pour l'essentiel et qui devait acheminer les trains de la rive droite du fleuve jusqu'à Bordeaux. Alors aujourd'hui, elle a été doublée par un pont, évidemment, qui a été conçu spécialement pour le TGV. Et la passerelle ne sert à rien. Il était prévu que depuis la fin de 2014, des travaux de réhabilitation soient entrepris. Mais aux dernières nouvelles, il semblerait que les travaux aient encore un peu de retard. 10 ans après ça, en 1866, le Sieur Eiffel s'est fait définitivement une spécialité de l'architecture métallique et il s'est fait plus encore une spécialité de jeter ponts et passerelles sur les cours d'eau les plus larges, les plus encaissés, les plus inaccessibles. Il devait en bâtir de ses ouvrages d'art en travers de la Sioule, de la Nive, du Touet. Il en exportera au Portugal, je pense évidemment au pont Maria Pia sur le Douro, qui est le plus grand d'Europe en 1877, jusqu'au Pérou même. Certains viaducs, par le tour de force qu'ils représentent à l'époque, vont porter loin la réputation de la jeune maison Eiffel. Et on pense évidemment au prodigieux viaduc de Garabit, hein, qui est, avec son arche unique, tout à fait époustouflante. D'emblée, Gustave Eiffel a compris que ces constructions de métal seront tout à la fois moins coûteuses et plus souples d'emploi que leurs équivalents maçonnés. Son esprit d'invention fait merveille lorsqu'il s'agit de raffiner cette technique, de lui apporter toutes sortes d'améliorations. Alors, on parlera peut-être des piles à air comprimées, du montage en porte-à-faux, etc. etc. On peut dire que tous ces ouvrages sont d'abord très réussi du point de vue de l'esthétique, mais ils sont surtout un incroyable défi technique. Tous ces ouvrages de métal ont des lignes élégantes, certes, ils allient la puissance à la légèreté, ils vont devenir en quelque sorte la signature du maître. La dynamique est lancée, désormais, Gustave Eiffel sera appelé à concevoir des chefs-d'œuvre de plus en plus prestigieux, voués à l'image, au prestige, bien plus encore qu'à l'utilité. Alors c'est d'abord en 1876 le gigantesque vestibule Iéna sur le Champ de Mars, dans la perspective de l'exposition internationale de 1878. 3 ans plus tard, Eiffel se lance dans une collaboration très visible, on ne disait pas encore médiatisée à cette époque, avec le sculpteur alsacien Bartholdi pour édifier l'armature de la statue de la Liberté. Et oui, le squelette de Miss Liberty, c'est aussi Gustave Eiffel. Et puis vient le moment de la tour, hein, de la tour qui un jour portera son nom. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en ce milieu des années 1880, les ingénieurs de la société Eiffel font assaut d'imagination en vue du grand événement qui s'annonce, puisqu'on est déjà en train de préparer le centenaire de la Révolution française, celle de la Grande Révolution de 1889. On est dans un régime républicain qui entend bien s'ancrer dans cette révolution. L'exposition universelle doit marquer cet anniversaire et l'on se demande ce que la France pourrait réaliser de vraiment extraordinaire pour donner tout le relief souhaitable à l'événement.
De la Bohème, interprété par Maria Callas, un opéra de Puccini. Pour agir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la construction de notre belle tour Eiffel.
Franck Ferrand sur Europe 1. au cœur de l'histoire.
Retour avec vous Franck Ferrand à la création et à la construction de la Tour Eiffel.
Il faut donc voir grand pour le centenaire de la Révolution et certains se sont dit pourquoi pas une tour de 300 mètres. Alors pourquoi 300 mètres? Parce que à peu de choses près, ça fait 1000 pieds. Or, l'idée de construire une tour de 1000 pieds était dans l'air, si je puis dire. Elle agitait le monde anglo-saxon depuis longtemps. En Angleterre, on en parlait dès 1833, vous vous rendez compte. Elle avait failli se faire cette tour de 1000 pieds à Philadelphie en 1876 pour l'exposition universelle. Seulement, à l'époque, les crédits avaient manqué. Ce serait d'ailleurs intéressant, puisqu'on avait fait une émission sur l'expo de Philadelphie, de voir que c'est même un peu plus compliqué que ça. Il y avait eu toute une alliance des puissances européennes contre le projet. Il y a, parmi tous les ingénieurs qui rêvent de cette tour de 1000 pieds, il y en a deux qui travaillent au bureau d'études Eiffel. Ils s'appellent Émile Nouguier et Maurice Koechlin. Ils vont développer un projet. Alors, ils présentent leur projet au patron, bien entendu. Dans un premier temps, Gustave Eiffel regarde ça, dit oui, pourquoi pas. Il les encourage à pousser plus loin leur étude. Mais vous voyez, dans un premier temps, on ne peut pas dire qu'ils soient enthousiastes. Ils continuent, les deux ingénieurs, ils ne se découragent pas, ils décident de peaufiner leur projet. Ils vont notamment demander à un architecte d'habiller un peu la première structure, qui c'est vrai était un peu sèche, hein, qu'on voyait les tout premiers dessins de Nouguier et Koechlin, c'est vraiment un triangle, hein, c'est pas bon. Et l'architecte s'appelle Sauvestre, alors là ça change tout, et ça devient une espèce de temple néo-byzantin, vous savez, avec toutes ces fioritures que les tout débuts de la Belle Époque étaient capables d'ajouter sur n'importe quelle structure, ça devient quelque chose d'un peu étonnant. Et là, d'un seul coup, si je puis dire, Gustave Eiffel s'y intéresse de près. Est-ce que ce sont les transformations de Sauvestre qui l'ont convaincu? Sûrement pas. La vérité, c'est qu'en novembre 1884, le président de la République a signé les décrets qui lancent l'exposition universelle de 89. Et là, d'un seul coup, Gustave Eiffel se dit qu'il est grand temps de présenter un projet. Il décide donc de reprendre tout ça. Alors, il y a toute une question de signature. Ça a fait l'objet d'un livre intéressant du reste, un dépôt de brevets, de belles indemnités aux deux ingénieurs. On rachète les parts dans les règles. Et maintenant, alors là maintenant, la tour devient la tour de Monsieur Eiffel. C'est son affaire. Il va quand même devoir se battre pour faire accepter l'idée de cette tour gigantesque en plein Paris. Certains disaient pourquoi pas l'installer sur le Mont Valérien. Non, il veut la faire là, dans le cœur de la capitale. Il faut vous dire quand même que Gustave Eiffel possède, au moins autant qu'un certain nombre de qualités d'ingénieur, le don de façonner les esprits, de fédérer les énergies, de mettre en œuvre les ardeurs. Il s'y emploie avec toute la hargne dont on le devine capable, et c'est ainsi, lorsqu'il croit en quelque chose, Eiffel peut déplacer des montagnes. Toute sa vie le prouve. Il avait été passé à côté de Polytechnique, et il n'a pas vraiment brillé à Centrale, mais il a su très jeune faire carrière dans l'aménagement ferroviaire, puis dans l'architecture métallique, nous l'avons dit. Il a su créer sa propre entreprise, la faire fructifier en France, mais vous avez compris, tout de suite et très vite à l'étranger. Parallèlement, il confiait à sa mère le soin de lui trouver une épouse efficace. On y reviendra tout à l'heure sur cette épouse qui lui a fait 5 beaux enfants. Si j'ose dire, il y a un plan de carrière dans la tête de Gustave, comme il y a un emploi du temps, une grille de commande, un échéancier commercial, un programme de chantier, vous avez bien compris que cet homme-là est l'enfant du positivisme. Or, dans son entreprise de propagande tous azimuts, Gustave Eiffel joue sur deux tableaux à la fois, le symbole et l'instrument. Le symbole, on l'a compris, c'est celui du progrès en mouvement, de la révolution, etc. Bon. L'instrument, c'est la station scientifique d'altitude dont Paris, à la même époque, a justement besoin. Eh bien ça, évidemment, Eiffel va le mettre en avant. Et ça, c'est une de ses spécialités aussi, il a toujours un œil sur la concurrence. Car s'il a appris une chose dans sa carrière déjà longue et belle, c'est qu'il ne suffit pas de présenter le bon projet. Encore faut-il que les concurrents ne vous savonnent pas la planche. Ici intervient un personnage essentiel et qui, à sa façon, va faire autant pour le succès de la tour que Gustave Eiffel lui-même. Cet homme s'appelle Édouard Lecroy. Il est ministre du Commerce et commissaire général de l'Exposition universelle. C'est un homme habile, c'est un républicain franc-maçon comme il y en a tellement alors, et qui préfère nettement Eiffel à ses concurrents. Alors, eh bien, ça c'est assez fort. Il va confectionner un cahier des charges sur mesure, disons-le. Les candidats vont devoir, je cite, édifier une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté. Bon, bref, c'est le portrait robot du projet de Gustave Eiffel. Évidemment, la grande question qui agite alors les Parisiens, c'est celle de l'emplacement. Où est-ce qu'on va même pouvoir la caser, cette tour Eiffel ? Faut-il lui faire escalader le Mont Valérien, enjamber la Seine ? Assez vite, c'est la vaste esplanade du Champ de Mars qui s'impose. Bon, eh bien, va pour le Champ de Mars. Maintenant, il faut trouver les fonds. L'État subventionnera à hauteur d'1,5 million. Le devis est estimé à 6,5 millions, ce qui veut dire qu'il faut quand même trouver 5 millions de francs, hein, de francs or de l'époque. Vous imaginez, une somme gigantesque. On fonde une société anonyme dont Eiffel va d'ailleurs prendre la moitié du capital. Le 8 janvier 1887, la convention de chantier est signée. Le plan définitif a beaucoup allégé la tour par rapport au dessin de l'architecte Sauvestre. On en revient à un schéma nettement plus épuré qui correspond grosso modo à ce que nous voyons aujourd'hui. Sur place, le chantier s'organise déjà quand, patatras, en février 87, surgit le premier gros obstacle. Dans le temps, tout un chapelet de hautes personnalités. Le temps, c'est le grand journal, le grand quotidien de l'époque. Hein. Tous les grands noms, il y a Maupassant, Gounod, Charles Garnier, etc. Bref, les grosses pointures ont décidé de se mobiliser contre le projet de la tour de Monsieur Eiffel.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la construction de Notre-Dame de Fer, la tour Eiffel.
Le talent, que dis-je le talent, le génie de Gustave Eiffel, c'est celui d'organisateur. Avec cet homme, tout est pensé à l'avance. De sorte que même les tâches les plus difficiles, en apparence, se trouvent réduites à une somme de tâches élémentaires, somme toute assez simple. C'est fascinant, ce sens-là. Le 1er juillet 1887, on se met donc à assembler sur place les premières pièces métalliques qui arrivent de Levallois. Le jeu de construction commence, sans perdre de temps naturellement, mais sans précipitation non plus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le plus léger détail, tout a été conçu d'avance, réalisé au sol, dans les ateliers de Levallois. 18 000 éléments de moins de 5 mètres qui ont été assemblés, enfin pré-assemblés, préparés pour le montage final qui va se faire au dixième, je dis bien au dixième de millimètre. Vous voyez l'extraordinaire précision d'un travail comme celui-là. C'est un jeu de mécano géant. Or, si on vous demande combien il a fallu de boulons pour assembler la tour Eiffel, ne tombez pas dans le piège, il n'en a pas fallu aucun, puisque la tour est rivetée. Elle n'est pas boulonnée. Vous savez, on reviendra tout à l'heure sur cette technique du rivet extraordinaire qui rendait les gens sourds à force de coups de masse. Pour ce qui est du montage des quatre piliers jusqu'à la première plateforme, des échafaudages ont été nécessaires. Évidemment, on a toutes les photos de ça. Je sais que Marion en a mis d'ailleurs une tout à l'heure sur le site. Or, l'opération la plus difficile, c'est précisément l'assemblage des quatre piliers au niveau du premier étage. Pour cet ajustement, Eiffel a eu l'idée de monter chaque pièce sur un vérin hydraulique. Une fois les pieds assemblés, les vérins sont condamnés par des cales en acier, ce qui va permettre, ça c'est l'astuce suprême, ça va permettre à ce premier étage d'être établi vraiment dans les règles de l'art. Et c'est aussi l'origine de cette légende qui voudrait que la tour Eiffel soit montée sur vérin. Elle n'est pas montée sur vérin, les vérins ont juste servi à cette première phase du chantier. Alors, parvenu jusque-là, Gustave Eiffel sait maintenant, avec la certitude de ces rationalistes qui travaillent sur la matière, vous savez, il sait qu'il va pouvoir mener son défi jusqu'au bout. C'était ça la difficulté. Arriver au premier étage et tout assembler. Une fois que c'est fait, alors il n'y a plus d'obstacle en quelque sorte. C'est nettement plus détendu désormais qu'il va parcourir ce chantier qui s'élève dans les airs. Alors, vu du sol, le jeu de construction a quelque chose de tout simplement incroyable. Pour toute une génération de Parisiens, l'année 1988 aura été marqué par les progrès quotidiens d'une tour qui paraît comme ça s'élever presque à vue d'œil. Les passants s'arrêtent, ils lèvent les yeux, ils hochent la tête et très souvent ils ne peuvent s'empêcher de rire devant la folie d'une entreprise d'autant plus folle qu'elle paraît bien partie pour réussir. On progresse de 10 mètres par mois, 30 mètres quand on en arrive à la flèche. Alors, Il faut se représenter les conditions de travail très spéciales de ces charpentiers qui travaillent en porte-à-faux dans le ciel, certains jours au-dessus des nuages qui couvrent la capitale. Vous imaginez, on n'avait jamais connu une chose pareille à l'époque. La structure est si gigantesque qu'elle crée une sorte d'univers à part, un monde envoûtant, inquiétant et par-dessus tout, enthousiasmant. Ça n'empêche pas certains ouvriers de se plaindre. Vous savez, il y a toujours les mêmes. Bon, alors il y a des grèves qui éclatent. Eiffel leur répond que le travail est exactement identique, qu'il ait lieu à 200 mètres du sol, à 50 ou à 5 mètres. Or, le plus grand exploit de Gustave Eiffel dans cette entreprise, c'est que contrairement à la tradition meurtrière de ce genre de chantier pharaonique, vous savez que d'habitude on compte les morts par dizaines sur les très grands monuments, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, eh bien celui-ci est un modèle de sécurité. Un seul ouvrier va mourir, et encore c'est lui qui a commis vraiment une imprudence totalement contraire au règlement. C'était un Italien dont Eiffel va s'empresser d'indemniser la veuve pour qu'elle n'aille pas se répandre dans la presse, vous l'imaginez bien. Les charpentiers du ciel, vont maintenant pouvoir achever le grand œuvre. Ils sont parvenus à près de 300 mètres. Ils assemblent les derniers modules, notamment le bureau que Monsieur Gustave s'est réservé là-haut, tout au sommet de la tour. Cette plateforme à 300 mètres, le grand drapeau tricolore dont la hampe fait 20 mètres, c'est le plus haut drapeau français du pays, en tout cas par rapport au sol, du haut de la tour, on peut désormais contempler Paris, on peut contempler le triomphe de Monsieur Eiffel. Il n'a peut-être pas été tout à fait à l'origine du projet, mais c'est bien lui qui l'a faite, cette tour, et c'est bien lui qui l'a construite. Fierté supplémentaire, elle va porter son nom. Eh oui, les autorités ont planché. Alors là, on a réuni toutes sortes de... C'est comme aujourd'hui, des sortes de spécialistes qui se sont dit on devrait l'appeler comme ci, comme ça. La tour de l'industrie, le phare de la révolution. Et finalement, on a dit et pourquoi pas la tour Eiffel ? Oui, c'est pas mal la tour Eiffel. Et puis vous avouerez que pour la publicité, on n'a jamais rien connu de mieux. Bonjour Philippe Coupéry-Eiffel.
Bonjour.
Vous portez un nom qui économise les présentations d'une certaine manière. Et bonjour Michel Carmona. Bonjour. Vous connaissez les monuments de Paris comme personne. Eh bien, avec vous, nous allons maintenant revenir non seulement sur la tour de Monsieur Eiffel, mais sur tous les tours de force du bonhomme.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Là, vous voyez, mademoiselle, c'est le plomb de ma tour Eiffel. Elle aura 300 mètres, où comptez-vous la mettre? Du côté du pont de Javel, à Montmartre, bien à Grenelle, la petite a dit, merci beaucoup, vous êtes gentil, mettez-la n'importe où. À Montmartre, au pont de Saint-Cloud, au champ de Mars, à Montparnasse, je vous préviens, il y aura plus moyen, après ça, de la bouger de là.
Un extrait de la tour de Monsieur Eiffel de Léo Margène sur Europe 1. Puisque c'est la tour Eiffel qui est au cœur de l'histoire cet après-midi, et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités, Philippe Coupéry-Eiffel, arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel et président de l'association des Amis de Gustave Eiffel, co-auteur avec Eddy Simon de la bande dessinée Gustave Eiffel, le géant du fer, et Michel Carmona, historien, auteur de Gustave Eiffel aux éditions Fayard.
On peut dire, Philippe Coupéry-Eiffel, que sans la tour, votre ancêtre, si brillant, si extraordinaire soit-il, et on va revenir sur l'ensemble de sa carrière, mais il serait 100 fois moins connu.
Ah, c'est certain. C'est certain que le nom de la tour Eiffel, enfin, le nom Eiffel accolé à la tour, a été on peut dire quelque chose qui a permis de connaître ce nom, ça c'est certain.
Et de le maintenir tellement vivant, car absolument, aujourd'hui encore, vous imaginez, la tour Eiffel est citée parmi les 10 monuments les plus connus de toutes, alors là vraiment, de tout continent confondu, quelles que soient les personnes auxquelles on s'adresse.
C'est... La tour Eiffel est un beau symbole, c'est un symbole de... Le maillage intérieur de la tour est un véritable symbole qui réunit les gens, qui les rend heureux et qui les rend fiers. C'est au moins ce qu'avait apporté mon ancêtre. Vous avez remarquablement bien raconté toute cette aventure. Et aujourd'hui, eh bien, la tour est encore moderne et c'est un symbole. C'est un symbole de liberté. C'est un point de repère pour les Parisiens et pour beaucoup de monde, pour les étrangers qui arrivent à Paris, etc.
Et ça a été un succès immédiat. Il est certain que la tour Eiffel a beaucoup fait pour le triomphe de l'exposition de 1889, Michel Carmona.
Tout à fait. C'était le but, on va le dire. Et le but a donc été atteint.
Oui.
Et il y a eu, alors, à la tour Eiffel même, 2 millions de visiteurs. Il faut dire que la Tour Eiffel n'a pas tourné à plein, si je peux dire, parce que dans les premières semaines, il manquait la mise au point des ascenseurs.
Eh oui, donc c'est
alors
un
vous
peu
imaginez, les gens devaient faire ce qu'on appelait l'ascension de la tour, et tous n'allaient pas jusqu'au troisième étage, et pas mal renonçaient avant même d'avoir commencé à grimper. Une fois les ascenseurs installés, alors ça a été, je ne vais pas dire le délire, mais presque.
Ah, oui, quand
et
même.
Ça a beaucoup, beaucoup contribué, effectivement, au succès de l'exposition de 1889, puisque cette exposition de 1889, elle a rassemblé une dizaine de millions de visiteurs, ce qui est déjà bien. Mais imaginez là-dessus, 2 millions pour la Tour Eiffel seule. Et la Tour Eiffel a été comme un appât, un symbole,
et même
une
ceux
affiche.
Qui ne grimpaient pas jusqu'à la Tour Eiffel l'avaient sous les yeux, l'observaient, l'admiraient de près ou de loin. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'était effectivement le but.
Il y a eu beaucoup d'illustres visiteurs. On peut dire que toutes les célébrités de la planète ont défilé dans le petit bureau de Gustave Eiffel, là-haut au sommet.
C'est... Edison, l'un des premiers, oui. Ça a beaucoup flatté Eiffel, parce que Eiffel est un scientifique, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et pour lui, Edison était un représentant du progrès scientifique. Imaginez le téléphone et tout ce que ça a pu représenter depuis. Et puis il y a eu certains des gens qui l'avaient critiqué, par exemple Berlioz qui est un jour venu jouer au piano puisque Eiffel avait installé un piano dans son petit refuge, non, pas rancunier. Guy, est-ce qu'il y a eu Édouard VII, le futur,
il était prince de Galles
à l'époque,
oui.
Édouard VII. D'ailleurs, c'est un des motifs qui ont été retenus de manière très curieuse dans l'inscription de la Tour Eiffel à ce qu'on appelle l'inventaire des monuments historiques. Quand on s'est aperçu que la Tour Eiffel n'était pas protégée, et ça des années beaucoup plus tard,
oui.
Ben c'était paradoxal parce que en principe elle était destinée
et
à disparaître.
Voilà.
Elle était provisoire. Voilà, c'était
un monument éphémère, oui. Qui ne devait durer que quelques années, oui. Et finalement il a été constamment prolongé. Oui. Bon, oui. Maintenant on ne songerait plus à le démolir, quoique moi j'ai connu l'époque pas si lointaine, bon ça fait 30 ans, vous me direz, moi je ne vois pas le temps passer, mais il y a 30 ans, il était quand même très sérieusement en question, hein. Il y a des gens qui voulaient absolument, je sais que le président Mitterrand d'ailleurs se posait des questions, qui voulaient absolument démolir cette Tour Eiffel. Aujourd'hui, elle fait partie du patrimoine, incontestablement. Hein.
Incontestablement, incontestablement, non, je ne vois pas effectivement le motif de la démolir, bien au contraire.
Mais alors certains la trouvaient agressive, beaucoup trop haute, etc. Elle est en fait très aérienne. J'ai souvent entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que si l'on concentrait l'ensemble du métal qui a été nécessaire à son édification, oui, oui. Et si on le descendait sur une plaque dont l'arête serait, dont le côté serait exactement l'un des côtés des piliers, d'un pilier à l'autre.
6 cm, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui.
Voilà.
Une plaque de fer 6 cm. Vous savez, quand Gustave Eiffel, elle est très légère, et Gustave Eiffel disait que quand il s'asseyait sur sa chaise au pied de la Tour Eiffel, eh bien, la pression des pieds de sa chaise était moins forte que celle de sa tour, oui. Sur le sol.
C'est voilà. Quand même tout à fait impressionnant.
C'est quand même extraordinaire, oui.
Bon, il y a une magie autour de cette Tour Eiffel. On pourrait faire non seulement une, mais plusieurs émissions. D'ailleurs, il y a eu de très belles émissions de fête. Il y en a une qu'on retrouve régulièrement avec Alessandra Sublet, que je salue, bien entendu, puisque le simple fait d'être tourné à la Tour Eiffel donne un supplément de magie à n'importe quelle émission, bien sûr. Bon. Mais nous n'allons peut-être pas faire toute l'émission sur la Tour Eiffel, si je puis dire, car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Gustave Eiffel a commencé bien avant et par des ouvrages qui ne sont pas minces, si je puis dire. Je parle du viaduc de Garabit, c'est quand même pas rien, Philippe Coupéry-Eiffel.
Ah, le viaduc de Garabit était un ouvrage. Eiffel a eu d'ailleurs cet ouvrage sans appel d'offres. Il avait réussi à construire le premier arc parabolique à Porto, Portugal, et on lui a confié ce chantier, et c'était un chantier au milieu de nulle part. D'abord, c'était dans un endroit assez isolé, assez aride, et il a construit là une école, il a construit un village, il a installé ses ouvriers, car c'était un homme qui était très proche de ses ouvriers, et il a réalisé ce qui reste aujourd'hui un des plus beaux viaducs, certainement, de cette époque.
Alors, on va parler du Douro, on va parler des écluses, tiens, de Panama, puisqu'on en a fait récemment une émission sur le percement du canal de Panama, et c'est vrai qu'Eiffel y a joué un rôle non négligeable, etc., etc. On a beaucoup à dire, Michel Carmona.
Oui, sans aucun doute.
C'est une immense carrière.
Une immense carrière, et moi je dirais à propos du viaduc de Garabit, c'est le moment où il a commencé à maîtriser parfaitement les techniques de la communication. Il faisait venir des photographes, il leur c'est disait, vrai. Voilà, tu te mets ici, tu te mets là, tu prends sous cet angle, non, sous tel autre angle. Et puis ensuite, les photos, il les envoyait aux journaux parisiens, aux journaux de la région de Dijon, puisqu'il était originaire de Dijon. Et puis, il y a tout un réseau, et ça a fait une publicité extraordinaire, évidemment, à Eiffel, à Garabit, et à toutes ses réalisations par la suite.
Alors, on va venir à toutes ces réalisations justement dans un instant. Pour dire au revoir à la Tour Eiffel tout de même, je vous propose une archive Europe 1. C'était le 25 septembre 1962. Et sur l'antenne d'Europe numéro 1 à l'époque, c'est Fernand Choisel qui lançait un grand spectacle d'Édith Piaf au premier étage de la Tour Eiffel.
Ici, le premier étage de la Tour Eiffel où, dans quelques instants, Édith Piaf va chanter devant les 20 000 spectateurs parisiens qui se sont groupés au pied de la Tour Eiffel. Édith Piaf monte sur le podium. Dans quelques secondes, elle va chanter. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé.
Du concert d'Édith Piaf au premier étage de la Tour Eiffel, retransmis par Europe numéro 1, c'était en 1962. Dans un tout petit instant sur Europe 1, la suite d'Au cœur de l'histoire consacrée à Gustave Eiffel sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Gustave Eiffel et de ses ouvrages, avec vos invités, Philippe Coupéry-Eiffel, arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel et président de l'association des Amis de Gustave Eiffel, co-auteur avec Eddie Simon de la bande dessinée Gustave Eiffel, Le géant du fer, sorti dans la collection Destin d'histoire, et Michel Carmona, historien, auteur de Gustave Eiffel aux éditions Fayard.
La bio d'Eiffel chez Fayard est toujours disponible, Michel Carmona.
Oui, tout à fait.
Alors, j'ai là sous les yeux cette bande dessinée. On dit bande dessinée, c'est la présentation des choses, mais ça reste quand même une biographie historique. On revit tous les grands épisodes de la vie de Gustave Eiffel, y compris de sa vie personnelle, de sa vie privée d'ailleurs, parce qu'il n'est pas qu'ingénieur cet homme-là, bien entendu, Philippe Coupéry-Eiffel.
Absolument, absolument. La bande dessinée est assez fouillée historiquement, si je puis dire. Mon co-auteur, Eddie Simon, qui a travaillé avec moi, et le dessinateur, eh bien, on
Joël
su rendre, voilà Joël Alessandra, on su rendre vraiment très bien toute cette période avec des jolis costumes.
Hein. Oui, c'est le début de ce qu'on a appelé la Belle Époque. Alors, au départ, il s'appelait pas. Enfin, si, il s'appelle Gustave Eiffel, mais il est le premier de la famille à porter le nom. C'est ce que vous nous expliquez,
oui,
Michel
Carmona.
En
réalité, Franck, il s'appelle Bönninghausen dit Eiffel.
Voilà,
c'est ça le nom officiel. Alors, pourquoi Bönninghausen? Parce que le grand-père de son grand-père est arrivé en France venant de la région de Cologne au début du XVIIIe siècle, dans les années 1700. Il était bourgeois, ce qui était une qualité éminente, hein, il n'était pas un simple ouvrier, bourgeois de la ville voisine de Cologne qui s'appelait Marmagen. Alors il vient en France, il obtient assez rapidement du travail, il devient même un spécialiste de la forêt, et évidemment on lui demande comment il s'appelle. Et il dit Bönninghausen. Les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, quelquefois, on dit Bönnich, on se moque, Bönnich.
Voilà. Eh oui,
en plus, voilà. On est à une époque de revanche.
Et donc, il se donne un surnom, un pseudonyme qui est Eiffel, parce que Marmagen est au voisinage du massif de, alors en allemand, Eiffel, oui. Qui s'écrit d'ailleurs avec un seul F, et les gens de l'état civil transcrivent avec deux F, et ça va rester avec deux F. Alors, ça ne gêne pas le fils de ce premier immigré qui est tapissier, ni le grand-père de Eiffel qui lui aussi commence par être tapissier, ni le père de Eiffel qui lui vibre pour les armées napoléoniennes.
Ah oui, oui, c'est un napoléonien fervent. Oui.
Et Eiffel fait sa carrière. Donc sans encombre. Sans encombre jusqu'au lendemain de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans l'année 1875, il licencie un dessinateur qui s'appelle, alors Petit Girard, je suppose que c'est resté dans les cauchemars de Gustave Eiffel, peut-être jusqu'à la fin de sa vie. Et cet ignoble petit, je prends les expressions de Eiffel, naturellement, est allé le dénoncer à la police et à la mairie de Levallois-Perret comme espion de Bismarck. Alors, enquête, contre-enquête.
Anti-germanisme de l'époque.
Voilà, anti-germanisme de l'époque. Alors, début 1876, Eiffel, frénétiquement, cherche tous les papiers de famille, fait pression sur son propre père pour qu'il lui donne des tas de choses, etc. Et en même temps, il porte plainte pour diffamation contre Petit Girard. Et finalement, sa victoire est totale, puisqu'il gagne contre Petit Girard, qui est même condamné à 6 mois de prison. Je ne sais pas s'il les a fait ou pas, mais enfin, la condamnation était là. Et d'autre part, le Conseil d'État, à la demande de Bunny Krausen, accepte de changer le nom en Eiffel. Voilà, et c'est ainsi que
je voudrais rajouter
il y a les Eiffel.
Une toute petite précision, si vous permettez, Michel Carbonard. C'est Eiffel a été très attaché à son nom jeune. Enfant, il signait déjà des lettres à ses parents, Gustave Eiffel. Oui. Et ce nom, si vous, le nom Bunny Krausen devait certainement être très compliqué pour ce petit garçon. Et
un
la
peu
simplicité.
Ingrat, disons,
voilà. Et il signait, toutes ses lettres étaient signées.
C'est tellement Eiffel, joli Eiffel, il faut dire.
Était signé
joli,
Eiffel dès son plus jeune âge. Alors après, effectivement.
Quel genre de petit garçon était-il, votre arrière-grand-père?
C'était un garçon très, très curieux, très. Il a vécu avec sa grand-mère qui était aveugle. Il s'intéressait. Il était très. Un garçon curieux. Un garçon curieux, très
marqué. Bon en maths tout de suite, mais...
Il était curieusement pas très bon à l'école, jeune, on peut dire. Ses notes n'étaient pas excellentes.
Certaines sont vraiment pas bonnes.
Voilà,
oui.
Et il considérait l'école comme un lieu où on n'apprenait rien du tout.
Mais d'ailleurs, il n'est pas reçu au concours de Polytechnique la première fois. Et il ne va pas redoubler, il va faire centrale.
Exactement, il est admissible, mais il n'est pas reçu. Et il fait centrale. Il fait centrale et il en sort d'ailleurs avec un brevet de chimie plutôt qu'un brevet de construction industrielle. Mais enfin, il se dirige très vite vers la construction métallique.
Bien sûr.
Voilà.
Il y a quand même dans cette famille, qu'on va appeler Eiffel, il y a le sens du travail, de la rigueur, presque même une certaine austérité, Michel Carmona.
Oui, et je dirais de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est sa mère, Catherine Moneuse, qui est la fille d'un marchand de bois venu à Dijon depuis le nord, depuis le Cateau-Cambrésis, d'où il était originaire. Et alors, elle sent que le commerce de bois, c'est bien... ça marche, mais qu'il y a quelque chose qui est l'avenir, qui est le commerce de la houille. Et alors, elle prend un accord avec le directeur d'une mine voisine pour avoir l'exclusivité de la houille. Voilà. Et elle a cet esprit d'entreprise. On le voit beaucoup aussi dans les lettres échangées entre elle et Gustave. On voit Gustave très souvent qui négocie avec elle.
Que dans la famille, chez les descendants actuels, il reste quelque chose de cet esprit entrepreneurial, si je puis dire?
Mais écoutez, je pense que chacun a essayé d'entreprendre au mieux déjà dans sa vie ce qu'il fallait faire, ou tout au moins ce qu'on croyait devoir bien faire. Mais effectivement, il y a des ingénieurs dans les descendants. Moi, je n'en fais pas partie.
Vous descendez de Valentine.
Alors,
il faut dire que Gustave Eiffel a eu 5 enfants. Il avait essayé, d'une façon presque mathématique, de trouver la meilleure épouse possible, et notamment une épouse très fortunée, si possible.
Exactement.
Et puis il y a eu quand même, vous le montrez très bien dans la bande dessinée, avec une page qui est assez cruelle, puisque il n'essuie que des refus, en fait.
Il n'essuie que des refus. Le pauvre, il demande à sa mère de lui trouver finalement une bonne ménagère,
qui
lui fera de beaux enfants et qui lui causera le moins de soucis possible. Il l'a d'ailleurs beaucoup aimé. Il trouve la mère de ses 5 enfants, qui malheureusement disparaîtra très jeune, à 32 ans, laissant Gustave Eiffel avec ses 5 enfants. Et mon arrière-grand-mère Valentine a d'ailleurs été élevée par sa fille aînée Claire. qui n'avait alors que 14 ans à l'époque.
Alors nous parlions tout à l'heure de la passerelle de Bordeaux, là sur la Garonne. En fait, cette passerelle, elle n'est pas faite, elle est faite par Eiffel, mais pour le compte de son patron de l'époque.
Hein. Son patron qui, vous le disiez tout à l'heure, est Charles Nepveu, ce personnage extraordinaire.
Ça s'écrit Nepveu, oui.
Oui, Nepveu. Personnage extraordinaire qui a obtenu la commande de... Alors, on dit la passerelle aujourd'hui à Bordeaux, c'est un vrai pont. C'est un pont ferroviaire avec deux voies pour la circulation des trains, plus un côté passerelle pour les piétons. Alors, il fallait absolument traverser la Garonne parce qu'il y avait une concession de chemin de fer...
On dit la Garonne, d'ailleurs, je sais que certains de nos auditeurs vont nous dire, oui, c'est la Gironde, hein, pour être encore plus précis, parce qu'on est au niveau de Bordeaux, là.
Et là, à Bordeaux, c'est la Garonne, voilà. Et, ce qui n'empêche que la marée remonte deux fois par jour le fleuve, et remonte d'ailleurs jusque bien au-delà de Bordeaux. Mm-hmm. Et c'est l'une des raisons de l'extrême difficulté du pont à construire. Parce que la Garonne est très boueuse, et dans les travaux préliminaires qui avaient été faits par Nepveu et par Eiffel, on s'est aperçu qu'il fallait creuser à 25 mètres en dessous du niveau de l'eau. Absolument. Vous vous rendez compte. Alors, le pont était essentiel pour relier le réseau de chemin de fer de Paris à Bordeaux, et ensuite de Bordeaux à l'Espagne et tout le reste.
C'est incroyable.
Et Nepveu avait la technique qu'il fallait, qui était la technique de l'air comprimé.
Et voilà.
Et voilà. Et il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance dans Eiffel et il lui a dit, voilà, tu vas aller...
Qui est un peu son fils spirituel,
d'une certaine
manière. C'est
tout à fait. Il y a eu presque un coup de foudre entre eux.
Oui, voilà. Et un passage de relais, presque, d'une certaine manière. On va voir Eiffel multiplier les grands projets. On y vient d'ailleurs. Tiens, je vais vous citer un certain nombre des grands projets d'Eiffel. Mais celui qui va être à la fois le plus titanesque et le plus dangereux pour ce qui est de sa réputation, étant donné le scandale qui va suivre, c'est l'affaire de Panama, bien entendu.
L'affaire de Panama, bien sûr. L'affaire de Panama était une affaire franco-française. Moi, je m'attache dans ma bande dessinée à prendre la défense du grand homme. Aujourd'hui, le gouvernement du Panama réhabilite le grand homme en récupérant les brevets qu'il avait déposés pour les nouvelles écluses qui sont faites aujourd'hui encore à Panama. Ce sont encore les mêmes écluses type Eiffel, qui sont fabriqués aujourd'hui dans l'agrandissement du canal. Et la presse étrangère, comme je raconte dans ma bande dessinée, avait vraiment pris la défense du grand homme. Il a été injustement mêlé dans une affaire, il a repris des parts dans Panama, il a poursuivi pour moi son idée, qui était une idée de canal à écluse, et qu'il a, Ferdinand de Lesseps l'a rappelé en 1887 pour mettre en place son système d'écluse, et en ce sens, Gustave Eiffel a laissé un travail remarquable.
Oui. C'est ce qu'on a raconté il y a quelques jours. Alors, je suis allé glaner chez Michel Carmona un certain nombre des grandes réalisations, la Statue de la Liberté, donc on en a parlé à New York, la gare de Budapest, qui est terminée en même temps que le viaduc de Porto en 1875.
Les inaugurations sont presque le même jour.
Le dôme de l'Observatoire astronomique du Mont Gros à Nice, la passerelle du Rocher de la Vierge à Biarritz, on oublie ça, mais c'est étonnant aussi, au-dessus des flots déchaînés, la passerelle des Buttes de Chaumont que connaissent bien les Parisiens, le grand escalier du Bon Marché à Paris, l'entrée des bureaux du Crédit Lyonnais, boulevard des Italiens, le pont ferroviaire de Cabnac Gare, le pont de Viana do Castelo, donc ça c'est encore au Portugal, et puis des ponts en Indochine, c'est Twinga qui nous dit « Merci de préciser la réalisation de la poste centrale de Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon », mais il y a d'autres réalisations en Indochine, il y a également, au Vietnam actuellement, il y a également le phare Amédée réalisé par Monsieur Eiffel et déplacé jusqu'en Nouvelle-Calédonie, nous dit Lys. C'est mondial cette entreprise.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne se déplace pas. Hein, aujourd'hui, on vous dit au Chili, au Pérou, au Portugal, il est venu, c'est vrai pour le Portugal, mais il ne se déplace pas, il étudie à distance, il envoie quelqu'un, un ingénieur, et il a d'excellents collaborateurs, mais il étudie tout à partir de Levallois-Perret, et ensuite il envoie les pièces en kit.
C'est incroyable.
C'est extraordinaire.
C'est tout le secret de la maison Eiffel. Michel Carmona, je renvoie, parce que malheureusement nous sommes déjà au bout de cette émission, quand je vous disais tout à l'heure qu'il aurait fallu 2 heures sur Eiffel, je renvoie les auditeurs à votre biographie chez Fayard, donc Gustave Eiffel tout simplement, et puis, et j'aurais bien aimé qu'on parle aussi du scientifique et de ces expériences de la fin de la vie, mais on n'aura pas le temps. Donc, je renvoie les auditeurs à votre bande dessinée avec Eddy Simon, pour Gustave Eiffel, le géant de fer. C'est dans la collection Destin d'Histoire. Et puis, également, n'oublions pas le très bel album que vous aviez fait paraître, Philippe Coupry Eiffel, chez Michel Lafon. C'était il y a 2 ans maintenant. Ça s'appelle Eiffel par Eiffel. Et là, il y a des photos à couper le souffle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de David. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître l'histoire des premiers salons de coiffure.
Alors, on va parler bientôt des salons de coiffure et des cheveux avec Marion Ruggieri. Mais pour tout vous dire, les femmes n'ont pas attendu l'ouverture des salons de coiffure pour prendre soin de leur chevelure. Simplement, en général, elles se faisaient coiffer à domicile. Ce sont les hommes qui vont être les premiers clients des salons. Alors, il y avait déjà, chez les Grecs, chez les Romains, des lieux où on allait se faire couper les cheveux, des petites échoppes. Au Moyen-Âge, on se rend chez le barbier, bien entendu, qui est chirurgien barbier. Vous savez, c'est une corporation à part entière. C'est Charles V qui, en 1371, reconnaît au barbier le droit de pratiquer ce qu'on appelle la chirurgie, c'est-à-dire essentiellement des saignées, des toutes petites incisions, hein, pour des choses, des petits abcès, des choses comme ça. Mais enfin, c'est une profession réglementée, bien entendu. En novembre 1691, un édit sépare officiellement les deux professions. Louis XIV va créer le statut de barbier, baigneur et cuviste perruquier, et à partir de là on peut vraiment parler des coiffeurs, mais il faut attendre l'après-révolution pour que les femmes, si je puis dire, aillent au salon de coiffure. La grande époque des salons de coiffure, vous savez, c'est le début, c'est la fin du 19e et le début du 20e siècle, notamment les années folles, bien entendu. Enfin, ça, je laisse à Marion le soin de vous en parler.